L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bonjour à tous, bienvenue en Classico. C'est déjà le dernier vol de la semaine, mais avant de prendre le temps de nous poser pour vous revenir en meilleure forme lundi prochain, il y a quand même à peu près 2 heures à passer en votre compagnie. C'est donc Classico, le magazine quotidien qui parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation exclusivement sur volume 3 du lundi à jeudi entre 10h et 12h. C'est un plaisir de passer ce temps avec vous. Merci aux inconditionnels et bienvenue à ceux qui découvrent le programme. Tout de suite, notre plan de vol.
Aujourd'hui dans Classico avec notre expert, on parle de fiscalité. L'immobilier est au menu de ce programme, on en parle avec notre passagère du jour, Mireiko. Au marché, on va acheter du maïs égrené. Nous ferons escale dans l'univers de Jaurès, vendeur de poulet braisé. Et puis dans Innovation, on parle de Clinique Cap Connect.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour pour parler d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Et si vous êtes attentif, depuis la semaine dernière, on vous a parlé de la pluralité d'expertises que nous vous proposons cette saison. Et on est jeudi. Hier, on parlait de droit. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité. Et on s'interroge sur ce que c'est, sur est-ce que la fiscalité, elle est universelle et quels sont les différents régimes fiscaux. Autant de questions que nous avons posées à notre expert, Wooly Foster Gabsi.
L'expert dans Classico. Dans Classico.
Merci Nadine pour cette première question sur la définition de la fiscalité. À ce sujet, je dirais simplement que la fiscalité peut être définie, comme dans la plupart des ouvrages, comme étant un ensemble de prescriptions législatives, c'est-à-dire sans loi, pas de fiscalité, qui vise à pouvoir, premièrement, définir la matière imposable, c'est-à-dire ce sur quoi reposera l'impôt, d'en établir les bases et les mécanismes de liquidation, c'est-à-dire du calcul de cet impôt, et d'en assurer par le mécanisme de contrôle et de recouvrement la collecte de ces impôts. Mais beaucoup plus loin, de pouvoir réguler les conflits entre les contribuables et l'État. Donc voilà un tout petit peu comment la plupart des ouvrages définissent la fiscalité. Par contre, chez nous, à PFAC Cameroun, nous irons plus loin pour dire que la fiscalité peut être considérée comme un véritable levier entre les mains des États, en ceci que la fiscalité est un outil juridique de financement public. Par la fiscalité, les États se financent. La fiscalité est un levier économique qui permet d'orienter les comportements de la population. Ceci à travers les exonérations ou encore les incitations. Mais davantage un instrument de régulation sociale parce que la fiscalité assure une redistribution de la richesse et fonde en réalité un développement assis sur l'équité. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette première question, Nadine. Pour ce qui concerne en fait la question de savoir de l'universalité de la fiscalité, je dirais que sur le plan étatique, on ne saurait parler d'universalité de la fiscalité parce que c'est un instrument de souveraineté. Deuxième moment, par contre, cette approche pourrait être nuancée lorsque nous rentrons en économie close. En économie close, effectivement, on peut parler d'universalité de la fiscalité dans les mécanismes de liquidation, de collecte et naturellement de règlement des conflits. Par contre, bien qu'étant en économie close, Ici aussi, la fiscalité ne sera pas tout à fait universelle dans ce sens que par secteur, on pourra avoir des différenciations dans l'approche de la fiscalité. Et c'est pour cela que des secteurs spécifiques tels que l'hôtellerie verront, par exemple, à côté de la fiscalité du droit commun, se greffer un complément de, je vais dire, se greffer d'autres impôts qui échappent à certains autres secteurs d'activité, notamment la taxe de séjour qu'on retrouvera par exemple en fiscalité de droit commun. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la question d'universalité de la fiscalité. On ne saurait parler d'universalité sans être en train de préciser véritablement le contexte dans lequel nous sommes. Alors Nadine, concernant la question relative aux différents régimes fiscaux et à leur spécificité au Cameroun, permettez-moi de commencer par définir les régimes fiscaux comme étant des paradigmes visant à classifier, à segmenter l'ensemble des contribuables inscrits dans les livres de l'administration fiscale. Et la segmentation vise simplement à organiser les règles d'administration et de perception de l'impôt en fonction de différents critères rattachés à chacun des segments. Donc au Cameroun, on pourra donc, en parlant des régimes fiscaux, parler du régime de l'IGS, qui est un régime qui a été institué par la loi de 2024, venant abroger celle de 2009 sur la fiscalité locale. Et c'est quoi l'IGS? L'IGS est non seulement un régime, mais c'est aussi un impôt. Donc l'IGS donc, est un régime fiscal qui va effectivement libérer les personnes visées du paiement de la patente, de la TVA, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et puis d'autres impôts et taxes dont je ne prendrai pas le soin de tout spécifier ici. Mais davantage, l'IGS en fait va concerner les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, c'est-à-dire les contribuables qui ne relèvent pas du régime du réel. C'est vrai que en tant que régime, il va un tout petit peu chevaucher sur le régime du simplifié et j'aimerais justement pour parler du régime du simplifié que je vais définir comme étant un régime, d'accord, visant les personnes physiques soumises à la patente et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Donc voilà la redéfinition que je peux avoir à donner du régime simplifié aujourd'hui, parce que si on entre dans le détail, vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas le cas hier. À côté de ce régime, qui est le régime simplifié, on va donc parler du régime du réel, qui cette fois-ci sera un régime qui va viser les contribuables réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 50 millions et soumis à la TVA. Donc voilà un tout petit peu partant de la base du chiffre d'affaires, vous voyez qu'on peut donc déjà classifier les contribuables dans trois régimes en fonction de leur chiffre d'affaires, en fonction de leur soumission ou non à la patente. Ok, mais au-delà de ça, je parlerai d'un quatrième régime qui est en fait le régime des OBNL, c'est-à-dire des organismes à but non lucratif, qui en réalité va concerner, comme son nom l'indique, les personnes, les contribuables dont l'activité ne vise pas forcément fondamentalement, autant pour moi, un but lucratif, mais qui, à certains points, pourront se voir rentrer, avoir des obligations, parfois comme étant des redevables légaux, c'est-à-dire appelés à collecter pour l'État des impôts sur des tiers, ou encore des redevables légaux pour certains impôts et taxes tels que par exemple les droits d'enregistrement, les droits de timbre auxquels ils ne seront absolument sont pas exemptés. Donc voilà ce que je peux dire de façon synthétique concernant les régimes et leurs spécificités. Je le dis, c'est tout à fait ramassé parce que c'est un sujet un peu plus large et un peu plus vaste.
L'expert dans Classico. Dans
Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, bienvenue en Classe Éco. Vous avez manqué la partie réservée à l'expert et aujourd'hui on parlait de fiscalité. Mais maintenant, on vous emmène dans le secteur de l'immobilier. Je vous laisse découvrir qui est notre passager du jour et juste après, on discute.
Notre passagère du jour fait de votre recherche immobilière son affaire. Elle s'est lancée dans le secteur en 2022 après une carrière dans la tech. Elle croit fermement que la survie de ce métier, de la formation de ses acteurs, raison pour laquelle elle milite pour cela à travers Riftech. Vous souhaitez mettre en valeur des biens? Elle est certainement celle qu'il vous faut. Un service et un accompagnement qui a un coût. Et aujourd'hui, on va parler de tous les contours de son activité. Là, c'est quoi le plaisir de recevoir Mireille Co, la dame de l'immobilier? Bienvenue à bord.
Vous avez donc compris, aujourd'hui on va parler d'immobilier et notre passagère du jour s'appelle donc Mireille Co. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est un plaisir particulier pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que on parle souvent beaucoup d'immobilier, mais dans notre contexte, les femmes, j'ai envie de dire que je n'en vois pas beaucoup. Du coup, c'était intéressant, il me semblait qu'on puisse vous recevoir et qu'on parle de tout ça. Justement, dans la présentation, on a dit qu'avant, vous étiez dans la tech. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans l'immobilier?
Oh, j'ai commencé dans l'immobilier en 2022. Et puis, j'avais un goût poussé pour le luxe. C'était comme quelque chose qui était enterré en moi. Et j'ai décidé d'explorer ça. Jusqu'au moment où j'ai commencé à intégrer les forums immobiliers.
Oui.
J'ai commencé à faire des annonces sur les réseaux sociaux. Le début n'était pas du tout facile.
Justement, comment est-ce qu'on fait la transition entre la tech et l'immobilier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dire que bon, il est temps, je laisse un peu la tech, je vais me lancer à temps plein dans l'immobilier?
J'ai eu envie de sortir de ma zone de confort. Vous savez, en tant que femme, j'avais un problème auditif.
Oui.
J'ai fait pratiquement 10 années travaillant à domicile. Donc, j'étais arrivée sur l'ordinateur et je n'avais pas de contact avec l'extérieur.
Oui.
Alors, avec l'immobilier, j'ai eu cette opportunité de sortir de ma zone de confort pour entrer en contact avec le monde réel. Parce que quoi, lorsque vous êtes sur un ordinateur, vous n'êtes pas en contact avec un monde réel.
Oui.
Alors, au contact des gens sur le terrain, cela m'a permis de m'épanouir, d'entrer en contact avec un maximum de personnes.
C'était une façon aussi de dépasser le handicap?
Effectivement.
D'accord. Justement, comment est-ce que vous êtes devenue la dame de l'immobilier? Parce que vous n'avez pas choisi une appellation qu'on retrouve à tous les coins de rue. Pourquoi la dame de l'immobilier?
Bon, pourquoi la dame de l'immobilier? C'est lorsque j'entrais dans le métier, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'hommes.
Oui.
Il y avait très peu de femmes dans les forums immobiliers. Et puis, il arrivait des fois où je contactais certains agents immobiliers, mais c'était des femmes. J'étais surprise.
Oui.
Je dis, waouh, donc vous êtes une femme. Mais pourquoi est-ce que vous adoptez des pseudonymes masculins dans les groupes WhatsApp? J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça.
Oui.
J'ai eu envie de créer une marque et j'ai dit la dame de l'immobilier pour marquer cet aspect féminin de la chose, mm-hmm. pour dire aux gens que les femmes sont capables de faire les affaires dans l'immobilier,
oui.
et dire aux gens que les femmes peuvent se démarquer par leur expertise.
D'accord.
Donc, la dame de l'immobilier.
Justement, quand les gens entendent la dame de l'immobilier, on ne se retourne pas un peu en mode, c'est qui celle-là? Ça arrive souvent. Donc, beaucoup connaissent votre nom au moins, ou tout le monde vous identifie juste comme la dame de l'immobilier?
Pardon?
Est-ce que beaucoup connaissent votre véritable nom, ou tout le monde connaît juste la dame de l'immobilier?
Oh, on peut dire 40% de personnes connaissent mon nom, mm-hmm. 60% de personnes connaissent la dame de l'immobilier.
Oui, le plus important, c'est de faire affaire.
Oui, c'est ça.
Voilà, je veux maintenant qu'on comprenne bien quel est votre métier, parce que chez nous, la plupart du temps, on connaît l'agent immobilier, que ce soit celui qui est en entreprise ou ceux qu'on contacte qui ont les plaques partout et qui mettent agent immobilier par-ci. Et limite, on connaît les sociétés civiles immobilières. Vous faites du consulting en logement. Ça veut dire quoi faire du consulting en logement?
Je suis consultante en logement meublé.
Oui.
C'est-à-dire quoi? Lorsque les gens quittent la diaspora, les pays à l'international, ils viennent au Cameroun.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas d'orientation.
Oui.
Ils ne maîtrisent pas le secteur du logement meublé.
Oui.
Ils ne maîtrisent pas les prix.
Mm-hmm.
Ils ne connaissent pas circuler dans la ville de Douala ou Yaoundé.
Mm-hmm.
Ils me consultent. Alors nous prenons rendez-vous en ligne,
mm-hmm.
et nous commençons à échanger.
Oui.
Et j'essaie de répondre à leurs questions. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le consulting.
Mm-hmm.
Et je précise que c'est personnalisé.
Oui. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, quelles sont les demandes qu'ils ont quand les gens sont à l'étranger et qu'ils veulent venir au Cameroun? La plupart des demandes, des exigences, c'est quoi?
Lorsque un client me contacte,
oui.
depuis l'international, il cherche le confort.
Oui.
À tout prix, le confort.
Mm-hmm.
Il aimerait être situé dans un logement qui est près du Boucron. Il aimerait savoir s'il y a la climatisation.
Oui.
Ça, c'est toujours le masque. Ils veulent ça, la climatisation.
Mm-hmm.
Et ils aimeraient savoir s'ils ont les possibilités de sortir, avoir une voiture, location des voitures pour sortir, faire des courses au marché,
mm-hmm.
surtout les familles. Voilà.
D'accord. C'est plus des expatriés ou bien des Camerounais, des étrangers ou bien des Camerounais qui vivent à l'étranger que vous avez?
Les Camerounais qui vivent à l'étranger,
mm-hmm.
surtout.
D'accord. Donc, c'est plus, vous leur offrez cette, vous êtes un peu leur point de repère quand ils arrivent au Cameroun niveau logement.
Oui.
D'accord. Genre, j'ai vu également qu'il y avait, vous faites du coaching en marketing immobilier.
Oui.
Faire le coaching en marketing immobilier, concrètement, c'est faire quoi?
Ça dit quoi? Dans mon réseau immobilier,
mm-hmm.
il y a des agents immobiliers. Ils n'ont pas des connaissances en création de contenu, rédaction des contenus, création des vidéos,
mm-hmm.
création des visuels.
Oui.
Moi, je travaille avec les agents immobiliers qui débutent.
Oui.
Parce qu'ils n'ont pas les connaissances dans ces choses-là.
Oui.
Mon travail est de les accompagner.
Mm-hmm.
Que ce soit la communication digitale, la gestion des pages sur les réseaux sociaux, la gestion de l'image, le branding parfois.
Mm-hmm.
Parce que beaucoup d'agents immobiliers refusent carrément de faire voir leur visage sur
oui.
Internet.
Mm-hmm.
Si vous avez constaté,
oui.
ils refusent de faire voir leur visage.
Mm-hmm.
Et du coup, ça crée
le manque de confiance.
Un problème de confiance avec les clients.
Oui.
Moi, je veux encourager les agents immobiliers à sortir de ce problème-là.
Oui.
Et quand j'ai commencé à m'afficher sur les réseaux sociaux, ça a créé beaucoup de secousses au niveau de mon cercle professionnel.
Oui.
S'afficher sur les réseaux sociaux en tant qu'agent immobilier,
mm-hmm.
ça semblait bizarre.
Oui.
D'autres étaient étonnés.
Pourquoi étonné? Parce qu'il vaut mieux être caché?
Oui, il faut se cacher.
Mm-hmm.
Et je ne trouvais pas ça normal.
Oui.
Quand on rend service aux gens, il ne faut pas se cacher.
Mm-hmm.
Il faut s'afficher.
Oui.
C'est ça la crédibilité.
Et c'est au-delà ça de
pour
son travail.
La confiance des clients.
Oui. Justement, vous, tout ce que vous savez aujourd'hui dans ce secteur-là, où est-ce que vous l'avez appris? Parce qu'il n'y a pas d'école où on apprend un tout petit peu tout ce qui... J'ai l'impression que tout le monde se forme un peu sur le tas. Après, sauf pour ceux qui ont peut-être étudié à l'étranger, et dans notre contexte, c'est un peu compliqué. Vous, où est-ce que vous avez appris à faire tout ça?
Voilà, je vais dire, je suis autodidacte.
Mm-hmm.
Je n'ai pas de formation en immobilier,
oui.
Mais je fais extrêmement de recherches.
Mm-hmm.
Parce que grâce à YouTube, grâce à Google, grâce à les outils de, avec les, l'intelligence artificielle,
oui.
Je peux faire des recherches poussées.
Mm-hmm.
Ça dit, la plupart du temps, je me forme,
oui.
Et je me mets à jour.
Mm-hmm.
Parfois, je suis aussi coachée par des experts en immobilier qui ont plus de 10 ans. Lorsque je suis coincée quelque part, je peux communiquer avec eux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre.
Mm-hmm.
À côté de ça, l'expérience aussi me permet d'apprendre
oui.
beaucoup de choses.
Mm-hmm. Justement, ces experts-là, vous les trouvez sur le plan local ou bien c'est avec les cours, les, tout ce que vous suivez sur Internet, vous contactez des gens qui sont à l'étranger. Les experts que, auprès de qui vous vous renseignez des fois.
Bon, je travaille avec des experts au Cameroun, là précisément, surtout les agences immobilières.
Mm-hmm.
Quand je contacte un responsable qui possède une agence immobilière, nous échangeons régulièrement. Mmh. Voilà.
D'accord. Et ça se passe plutôt bien. C'était, ils étaient faciles d'accès quand vous arrivez. On va dire que vous n'êtes personne. Vous contactez les agences et tout ça.
Ce n'était pas du tout facile parce que je constate que dans notre milieu, ce n'est pas tout le monde qui partage ses connaissances oh. avec les autres.
Mmh.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment difficile au début.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer mon réseau.
Oui, Riftech.
Riftech.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si vous avez constaté.
Oui, j'ai vu. Riftech qui veut dire
Réseau
mm-hmm.
immobilier.
Oui.
Formation,
mm-hmm.
technologie.
D'accord. Vous avez quand même voulu associer la technologie à tout ça parce qu'aujourd'hui, à distance, on peut communiquer, on peut tout faire. C'était important pour vous d'avoir ce propre groupe-là pour transmettre aussi.
Oh, Riftech, c'est un groupe Facebook.
Mm-hmm.
Vous savez, je suis aussi professionnelle de la communauté.
Oui.
J'ai créé ce réseau social pour rassembler les débutants, les experts en immobilier,
oui.
les investisseurs. C'est un mini réseau qui permet de mettre en contact ces gens-là.
Ouais, ceux qui ont des biens, ceux qui veulent vendre des biens, ceux qui veulent apprendre.
Je précise, ce n'est pas un forum où on vend les biens.
Ok.
Parce qu'il y a beaucoup de forums, tellement de groupes Facebook où vous pouvez avoir les biens.
Mm-hmm.
J'ai voulu faire un groupe qui est basé sur la formation,
oui.
l'apprentissage,
mm-hmm.
l'expertise.
Mm-hmm.
Ce qui implique que les gens qui entrent dans le groupe, ils viennent partager leur expertise.
Oui.
C'est ça.
Tout ce beau monde-là, c'était facile à trouver entre les débutants. Les gens viennent plus vers vous ou vous allez plus vers eux pour essayer de rassembler?
Je vais beaucoup plus vers eux parce que beaucoup ont la mentalité de retenir les informations.
Oui.
Il faut échanger avec beaucoup de personnes pour leur convaincre de rejoindre le réseau social afin de partager ce qu'ils savent.
Mm-hmm. Donc, c'est un tout petit peu... Il y a combien de personnes à peu près aujourd'hui dans ce groupe-là que vous avez créé?
Nous sommes à 70.
Tous sont à Douala ou bien c'est plusieurs villes du Cameroun?
Douala, France, États-Unis, Togo, mm-hmm. Bénin.
D'accord. Dans les pays qui sont à l'étranger, c'est plus les professionnels ou bien les jeunes aussi qui veulent apprendre?
Ils sont au Cameroun.
Mm-hmm.
Surtout ceux qui sont au Cameroun.
Oui, c'est ceux qui sont au Cameroun qui veulent plus apprendre, c'est ça?
Oui, ils veulent apprendre.
Et c'est les experts qui sont dans les autres pays. Ça veut dire que ce sont des Camerounais qui sont dans ces pays-là ou bien c'est plusieurs pays?
C'est plusieurs pays.
Et au niveau réalité, en fonction des pays où on réside, vous partagez les mêmes réalités ou bien le Cameroun est encore loin derrière?
Oui, 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 il faut le dire. Il faut le dire.
Donc pour le Cameroun, on a au niveau normes, niveau encadrement et tout ça, on est encore très loin du compte.
Pardon?
On est encore très loin du compte en ce qui concerne la gestion immobilière ici chez nous?
Oui, 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 oui. Je veux vraiment dire qu'il y a un problème.
Mm-hmm.
Il y a un besoin de... lancer un institut de formation, que ce soit un collège dans l'immobilier, une université.
Mm-hmm.
La majorité des agences sont focalisées sur l'immobilier commercial.
Oui.
Or, il faut aussi voir le côté aspect formation,
mm-hmm.
le côté événement.
Oui.
Parce que quand vous regardez au Cameroun, est-ce que vous entendez souvent parler d'un forum dans l'immobilier?
On se retrouve dans les trucs quand on cherche les maisons.
Ce genre d'événement.
Oui.
Il n'y en a pas.
Mm-hmm.
Ce qui fait que la plupart du temps, j'essaie de travailler avec les agences, j'essaie de les sensibiliser pour que nous puissions lancer des conférences,
mm-hmm.
des mini-formations et créer des événements, pourquoi pas des petits brunchs immobiliers qui permettent aux agents immobiliers de se connaître les uns et les autres afin de renforcer la confiance.
Mm-hmm.
C'est ça.
Mais justement, tous ces grands groupes-là, qui sont là depuis des années, qui arrivent à s'en sortir dans ce milieu et qui n'ont pas eu besoin de faire tout ça, est-ce qu'ils trouvent cette approche intéressante aujourd'hui?
J'ai eu à discuter avec certains agents immobiliers. Mm-hmm. Beaucoup sont là. Ils veulent d'abord se faire de l'argent.
Oui.
Pour eux, c'est l'argent. Et ils n'ont pas besoin de formation.
Mm-hmm.
Mais la plupart du temps, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils ont tort.
Oui.
Parce que lorsqu'un client qui est à l'international vient vous contacter,
mm-hmm.
il constate que, par exemple, vous ne savez même pas rédiger une annonce immobilière.
Oui.
Vous ne savez même pas vendre votre service à travers un visuel conçu sur Canva, par exemple.
Oui.
C'est très mauvais.
Mm-hmm. Justement, est-ce qu'il y a une façon de... Quelle est la bonne façon de faire une annonce immobilière? Parce que nous, on est habitué à nos plaques, nos tableaux en route. On dit maison à louer, 3 chambres, 12 mois d'avance. C'est nos annonces là-bas. Enfin, celles auxquelles on est habitué quand on passe dans les rues, pour ceux qui ne vont pas dans les sociétés civiles immobilières. Quelle est la bonne façon de faire une annonce immobilière? Est-ce qu'il y a un canevas, tout ça?
La bonne façon de faire...
Une annonce immobilière.
Pour faire une bonne annonce immobilière, il faut une accroche
mm-hmm.
percutante. Très percutante. Et il faut avoir, mettre des informations qui décrivent en détail le bien immobilier.
Mm-hmm.
Parce que parfois, quand tu regardes les annonces, quelqu'un vient, il te balance par exemple une annonce, tu ne vois pas si c'est un terrain par exemple, mm-hmm. tu ne vois pas si c'est ticré.
Oui.
Est-ce que c'est non ticré? Tu ne connais pas. Tu vois un agent, il prend, il balance dans un groupe. Il ne finit pas de rédiger l'annonce. Il y a un problème informationnel dans l'annonce.
Mm-hmm.
Donc, savoir rédiger les annonces, c'est très important.
Oui.
Ça capte l'attention. Ça attire le client. Et je veux vraiment sensibiliser les agents immobiliers d'apprendre à rédiger les annonces immobilières.
Même ceux qu'on a dans toutes nos rues-là, est-ce qu'eux, ils sont sensibles à ce discours-là? Puisque, de toutes les façons, ils gagnent leur argent sans ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont s'embêter à aller apprendre comment rédiger? Alors que si je mets juste villa à louer, 3 chambres, 2 douches dans tel quartier, les gens vont m'appeler.
Certains sont sensibles, d'autres ne sont pas sensibles. Malgré qu'avec les intelligences artificielles, on peut rédiger des annonces immobilières. Ils n'ont pas parfois la volonté, mais d'autres ont la volonté. Ils sont écartelés entre l'expérience de terrain et l'expérience en ligne.
Mm-hmm.
Ils se demandent, mais comment est-ce qu'on peut faire entre préparer les contenus le matin avant de sortir, aller sur le terrain? Ce n'est pas facile pour certains. Parfois, ils ont envie de recruter des community managers pour gérer leur marketing. Ce n'est pas facile.
Mm-hmm.
Mais moi, je pense qu'un bon agent immobilier devrait apprendre à créer d'abord son propre contenu avant de le confier à un autre.
Mm-hmm.
À une autre personne, vous oui. voyez un peu,
oui.
c'est ça.
Donc justement pour ces agents immobiliers, je ne sais pas s'il faut dire non assermentés, qu'on a dans tous nos petits quartiers, dans chaque coin de rue, quelle est la démarche que vous avez? Vous allez à leur rencontre physiquement ou bien c'est juste à travers le réseau Riftech que vous avez créé? S'il y en a qui sont présents sur les réseaux sociaux, vous essayez de les ramener dans le groupe? Est-ce que tout se passe plus en ligne qu'en présentiel?
Tout se passe plus en ligne.
Mm-hmm.
J'ai d'abord un groupe WhatsApp
oui.
qui est d'abord commercial.
Oui.
Mais c'est une communauté WhatsApp
mm-hmm.
dans laquelle j'ai fait des sous-sections.
Oui.
Vous avez par exemple la session où je peux faire parler uniquement des librairies immobilières. Dans cette session, je relève par exemple des livres immobiliers des divers aspects qui sont dans le monde entier.
Mm-hmm.
Vous avez par exemple la section événementielle
oui.
dans la communauté WhatsApp où je relaie les événements dans le monde.
Mm-hmm.
Parce qu'il peut arriver des agents immobiliers, ils ont des moyens pour aller dans ces événements.
Oui.
Je contacte souvent ces organisateurs des événements pour faire le réseautage.
Oui.
C'est ça. Autant de choses. Il y a la section formation dans laquelle lorsqu'il y a des formations ailleurs dans d'autres pays, je mm-hmm. relaie dans nos groupes.
Oui, pour des gens que ça intéresserait et qui auraient les moyens d'y aller.
Justement.
D'accord. Est-ce que à ce niveau-là, vous également, vous avez, parce que vous tenez à la formation, est-ce que vous avez déjà préparé, je ne sais pas s'il faut dire, en termes d'accompagnement, vous avez vos propres documents, tous pour organiser des sessions de formation éventuellement? Oui. Ou c'est juste le partage de ce que les autres font?
Non, non, bien sûr, bien sûr. Vous savez, je suis d'abord community manager de formation. Mm-hmm. J'ai des notions en community management, j'ai des notions en création de contenu. Mm-hmm. J'ai formé dans maîtrise de l'utilisation de Canva.
Oui.
Il y a ça que je sais faire. Donc, moi, à court terme, j'aimerais lancer des formations pour les agents immobiliers afin de leur permettre de maîtriser leur marketing, leur image, leur branding. C'est ça.
D'accord. Est-ce qu'il y a des moments...
Vous savez, c'est une démarche humble.
Oui.
Je ne peux pas tout faire.
Oui.
Et l'immobilier, c'est un vaste.
Oui.
Il faut toujours essayer de... C'est-à-dire, si je fais immobilier... Qu'est-ce qui, autour de l'immobilier, peut me permettre aussi de développer mes activités?
Oui.
Vous voyez, parfois, il y a des agents immobiliers qui font dans la location.
Oui.
Mais à côté, il fait, par exemple, la décoration. À côté, il fait, par exemple, l'architecture.
Oui.
Tout ça, ça va de pair. Donc, ma démarche est vraiment humble. Je travaille avec d'autres experts pour qu'on puisse vraiment mettre ces formations-là.
Oui. Justement, dans cette recherche de personnes avec qui vous travaillez, je vous vois aussi mettre en valeur le travail des autres. Ça a été le cas avec le travail du bambou pour Henri Simo. Dès que vous trouvez quelque chose pour... parce que vous avez lancé aussi un peu le volet de décoration d'intérieur. Parce que les gens vous demandaient beaucoup des conseils en termes d'ameublement et tout ça pour les logements.
Les gens qui me demandent des conseils, ce sont les gens de la diaspora, ce sont les clients. La plupart du temps, ils ne connaissent pas comment acheter une maison au pays, comment acheter un terrain. Oui, c'est ça. Ils veulent des conseils juridiques.
Oui.
Mon travail est de les mettre en contact avec les cabinets juridiques afin qu'ils aient plus d'informations.
Ok. Ça vous a pris à peu près combien de temps pour trouver, j'ai envie de dire, tous ces gens-là? Parce que vous semblez avoir un carnet d'adresses pour les agences immobilières, un carnet d'adresses peut-être pour ceux qui ont des appartements meublés, pour ceux qui ont besoin de faire louer des voitures, pour tous les services connexes en fait, et également pour les services d'avocats et tout ça au cas où les gens ont besoin de l'expertise juridique. Ça vous a pris combien de temps pour aller approcher toutes ces personnes-là, le temps de discussion et qu'ils soient, on va dire quoi, un peu convaincus que vous pouvez leur ramener des potentiels clients aussi, parce que c'est ça dans votre réseautage. Pendant combien de temps vous avez rencontré des personnes dans divers secteurs, ou bien c'est non, je marchais, j'ai vu telle entreprise qui fait des meubles, je suis juste allé me renseigner et puis je les ai mis dans mon carnet d'adresses?
Oui, je fais une approche en ligne et je fais une approche en présentiel. Lorsque cela nous permet, bien sûr.
D'accord.
Afin qu'on puisse avoir des partenariats solides.
Oui.
Et il faut noter que je travaille aussi avec des agences immobilières en France.
D'accord.
Beaucoup d'entre elles ont sollicité mon expertise afin que nous puissions développer des instituts de formation au Cameroun. Et là, elles m'ont demandé si j'étais légalisée. Je dis pas encore, mais ça arrive.
Oui.
Il faut aussi un agrément au Cameroun pour avoir une licence qui permet de former et de délivrer des diplômes.
Oui.
C'est très important.
Donc, c'est le projet qui arrive.
Oui.
D'accord. Ces agents, comment vous êtes, c'est le fait de relayer les événements, comment est-ce que vous avez pénétré ce milieu-là des agences immobilières à l'étranger en étant au Cameroun? Vous savez qu'on peut tout faire en ligne aujourd'hui, mais c'est quoi, vous participez à leurs événements virtuels et puis la relation s'est nouée, comment ça s'est fait?
Oui, ce sont des événements virtuels, surtout.
Donc, au quotidien, vous traquez tous les événements de l'immobilier sur
tous
le continent.
Tous les événements de l'immobilier.
Que ce soit dans les autres pays africains ou bien...
Africain, international, tout.
D'accord.
Vous savez, il y a un problème au pays, c'est que les gens sont fermés. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de se connaître ce qui se passe à l'extérieur du pays.
Oui.
Et moi, je suis contre ça. Parce qu'en regardant ce que les autres font, ça peut ouvrir notre esprit.
Oui.
Ça peut nous permettre de créer quelque chose qui est plus tropicalisé dans le secteur de l'immobilier. C'est pour ça.
D'accord. Justement, en termes, comment est-ce que de ce côté-là, on perçoit puisque vous êtes en contact avec eux, on perçoit le secteur immobilier, peut-être pas à l'échelle du continent africain entier, mais du Cameroun. On voit plus la nécessité de venir former la relève ou alors ceux qui sont quand même déjà là et qui n'ont pas les moyens, comme certains, d'aller participer aux grands événements à l'international.
Oui. Bon, vous savez, dans un premier temps, je pense à un modèle de formation qui est un peu comme Google ou Facebook, la plateforme Google.
Oui.
Je veux un truc qui est d'abord numérique, qui permet aux gens de se connecter sur une plateforme, avoir accès à des mini-formations et avoir des certifications numériques.
Ah oui, un peu du type
c'est
MOOC.
La première étape avant de passer à l'étape où on va avoir
une école,
collège,
un institut
une école et tout ça. Ça demande beaucoup de travail. Mm-hmm. Il faut assez de traction pour passer à cette étape-là.
D'accord, donc avec les grandes écoles, là, on travaille un peu sur un projet de type MOOC qu'on va mettre en ligne de façon saisonnière pour que les gens puissent avoir un certificat à faire valoir quelque part.
Effectivement.
Je suppose que tout ça ne sera pas gratuit parce que on va voir dans la deuxième partie tout à l'heure la question des coûts parce que le service que vous proposez aussi, cet accompagnement, cette disponibilité, cette mise en réseau-là, parce que votre temps aussi doit valoir de l'argent quand
bien
même.
Sûr.
On verra à peu près combien on peut gagner en étant un agent immobilier, en faisant son travail de façon professionnelle. Donc, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme.
Le passager du jour dans Classico.
Bienvenue au Classico.
Normalement, les bactéries et les pathogènes ne prolifèrent pas dans un milieu alcoolique.
Ok. Donc, même si on a à vie.
Justement. Et l'une des particularités également des alcools, c'est que on dit souvent, plus ce vin vieillit, plus il se bonifie avec le temps. Voilà, et c'est la particularité des alcools également, que ce soit les liqueurs, même le rap. Donc, plus ça dure,
mieux ça.
Mieux le goût.
Tant qu'on attend, voilà. Je ne suis pas encore passé. Je ne suis pas encore passé. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de penser que mais le rap.
Retrouvez Nadine Nanguet de lundi à jeudi entre 10h et 12h. 12h, 12h, 12h. Seulement sur Volume 3. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
On est de retour pour la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passagère du jour, Mireille Co. C'est peut-être que vous la connaissez sous le nom de la dame de l'immobilier. En tout cas, on parle d'immobilier depuis un peu plus de 30 minutes maintenant. Et on arrive à la partie parce qu'elle a dit le service, les gens de l'étranger, c'est nickel et tout ça. Maintenant, niveau cet accompagnement-là, c'est quoi les grandes étapes, combien ça coûte surtout parce que, pas parler de tout ça, on parle pas d'argent. L'argent immobilier gagne quand même de l'argent, sinon elle fait quoi dedans si c'est le travail gratuit. Du coup, quand par quel canal les gens qui veulent louer des appartements vous contactent?
Oui,
ils vous contactent sur Facebook, sur WhatsApp, tout ça?
Ils me contactent sur Facebook.
D'accord.
Et WhatsApp.
Et ils vous disent, quand ils vous contactent, ils font quoi? Ils disent, je viens à telle date. Quelles sont les informations qu'ils doivent vous donner? Et puis, comment se déroule la discussion? Et puis, vous savez que vous pouvez vous engager à leur chercher un logement.
Voilà, en termes d'informations que je demande la plupart du temps à mes clients, c'est quelle est la durée de leur séjour? Ensuite, quel est leur budget minimal ou maximal? Ensuite, est-ce qu'ils ont des exigences par rapport au standing? Parce que beaucoup ont, ils aimeraient avoir un standing, un très bon standing la plupart du temps, c'est ça. Mais ils n'ont pas le budget approprié. Autre information, c'est aussi, j'aimerais savoir s'ils sont accompagnés. Est-ce que c'est 4 personnes, est-ce que c'est 5 personnes, ainsi de suite, ou une famille.
Oui.
Ça, c'est pour voir la capacité d'accueil.
De l'appartement, du logement qu'ils souhaitent.
Oui, de l'appartement, c'est très important. Parce que parfois, lorsque certains clients viennent, ils ne signalent pas qu'ils seront 10.
Oui.
Et puis, si l'appartement a 2 lits, on se rend compte qu'ils ne pourront pas exploiter l'appartement.
Oui.
Du coup, le propriétaire se dit, bon, ça veut dire que les gens vont dormir sur les canapés, le divan, et puis ça ne se fait pas du tout.
D'accord. Et justement, à quel moment est-ce que c'est un client pour vous? Est-ce que pour que vous alliez faire, vous fassiez leur recherche, ils font un acompte ou bien non, vous vous tapez pour faire la recherche et puis après, on peut payer votre service ou pas?
Bon, moi, je travaille sur accord verbal. C'est que parfois ça marche, parfois ça marche pas.
Oui.
Mais je pense changer le game des choses.
D'accord. Donc, ils vous disent ce qu'ils veulent, vous vous débrouillez pour faire la recherche.
Comment je fonctionne, je vais vous dire franchement. Moi, je propose aux clients deux appartements ayant ciblé parfaitement leurs besoins. Mais lorsque le client veut déjà 5 propositions, 10 propositions, je facture.
D'accord.
Je facture mon temps de recherche, je facture le temps que je discute avec les propriétaires pour connaître quel est l'état des réservations, par exemple, de leur côté. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le prix que le client le propose le arrange vraiment?
Oui.
Est-ce que moi aussi, en tant qu'intermédiaire, je vais gagner quelque chose?
Justement, combien coûte le temps d'un agent immobilier? Est-ce que vous avez un prix standard ou bien c'est en fonction du logement qu'on a choisi, on fonctionne au pourcentage? Comment est-ce qu'on gère les accords à ce niveau-là?
Oui, quand je travaille avec les propriétaires, la plupart du temps, la commission, c'est 10% du prix total versé par le client qui intègre l'appartement. Puis, côté client, lorsque je travaille, le temps de recherche, c'est 3 à 7 jours. Et je facture 15 000 normalement.
Oui.
Et dans les 15 000, je peux mettre de côté l'argent de transport qui me permet d'aller vérifier l'appartement et leur faire des comptes rendus.
Oui.
S'il y a toute autre chose à faire, comme par exemple contacter les restaurants, prendre les rendez-vous avec des gens qui peuvent fournir des services additionnels pour le client, je vais les contacter. C'est ça.
Et à ce moment-là, on négocie, ça ne reste pas dans les 15 000 qu'ils ont payé pour la recherche d'appartement, pour les services additionnel, je suppose qu'il y a d'autres frais.
Oui.
Et là, c'est en fonction des accords que vous avez.
Oui, en fonction des accords.
D'accord. Et donc, le client, lui, paye juste votre temps de recherche et c'est le bailleur, le propriétaire du logement qui vous paye parce que vous avez ramené un client.
Oui, c'est ça.
D'accord. Le client ne paye pas plus que ça.
Rien du tout, oui.
D'accord. Justement, ça se passe toujours bien en termes d'accord. On travaille sur les appartements.
Ça se passe toujours pas bien. Parce que le client, lui, dans sa tête, il vous contacte. Il sait bien que vous êtes intermédiaire dans la recherche des logements. Mais lui, dans sa tête, il s'est dit, bon, c'est le propriétaire qui va vous payer. Lui, il n'a rien à débourser. Pourtant, c'est lui qui vient à votre... il vous apporte pour avoir le service et puis ça ne se fait pas.
Et c'est vous qui devez vous rassurer que tout est en place et tout ça.
Voilà, justement, je me rassure qu'il comprend la valeur du service que je propose.
Est-ce qu'on peut aller au-delà de ces 15 000 là qui sont vos frais pour les frais de recherche un tout petit peu?
Les frais de recherche, c'est 15 000.
Non, ça ne bouge pas.
C'est 15 000, ça ne bouge pas. Maintenant, il y a des clients qui... ils veulent loger un cru, par exemple, un logement. C'est-à-dire, on est par exemple en septembre. Lui, il veut intégrer un appartement en décembre. Et pendant une période de 3 mois, il vous met au boulot. Vous ne faites que proposer les appartements. Mais lui, il a toujours un petit détail qui ne lui plaît pas. C'est là où je peux facturer un peu plus jusqu'à ce qu'il soit satisfait.
Et les règlements, se fait quoi? Avant que vous fassiez les recherches ou bien après?
Oh, c'est à la commande, 50% et 50% à la satisfaction lorsqu'il intègre l'appartement.
Voilà. Et avec les propriétaires, comment ça se passe? Dès que le client a payé ses 3 mois de logement, vous tendez la main, là, ou bien on donne rendez-vous, ça se passe toujours aussi bien avec cela?
Oh, ça dépend de ma disponibilité. Parfois, je ne suis pas disponible. Il fait un transfert par mobile money. Parfois, je peux me déplacer.
Mais c'est le jour où le client verse l'argent qu'il doit vous payer aussi.
Oui, c'est le jour que le client verse qu'il doit payer.
Ça se passe toujours bien aussi avec les propriétaires de logements. Ils payent toujours?
Ça ne se passe pas toujours bien parce qu'il y a des clients qui, parfois, lorsqu'ils viennent, ils savent bien qu'ils doivent payer cash quand ils intègrent l'appartement. Mais quand ils arrivent, ils paient, par exemple, 50%. Et ils décident de payer carrément 50% lorsqu'ils sortent de l'appartement. Du coup, ça impacte la commission que moi, je reçois.
D'accord. Non, comment ça impacte la commission? On vous verse la commission en deux fois ou bien...
En deux fois, comme vous avez compris.
D'accord.
Parce que le client a payé 50% quand il a et 50% quand il sort.
Donc, le propriétaire du logement ne veut pas prendre le risque de vous payer toute votre commission à
il
vous
et
de
ne pas... prendre justement le risque.
Parce que s'il n'est pas payé
sans
à la fin...
Il y a des clients, parfois, ils s'en vont sans payer.
Mais à ce moment-là, chacun oublie.
C'est ça, ça crée des problèmes.
D'accord, justement, ça fait partie des problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont propres à ce secteur-là que vous rencontrez depuis 3 ans que vous êtes investi?
Oui, il y a des problèmes parce que, vous savez, tout récemment et très souvent à Douala, il y a des clients qui viennent cambrioler dans les appartements.
Ok.
C'est un problème qui est toujours très récent. Même je lui ai menti pas deux fois de ça, sur sa part, ça avait constaté. Mm-hmm. Et quand le client vient, il se comporte comme un client, mais il est un cambrioleur.
Ouais.
Du coup, vous qui avez joué le rôle d'intermédiaire, vous avez des problèmes avec le propriétaire.
Mm-hmm.
Ce sont les genres de problèmes qui arrivent. Heureusement, je n'ai pas encore eu affaire à ce cas.
Oui.
Mais je parle au nom de la communauté immobilière ici.
Mm-hmm. Et comment ça se passe quand les clients que vous avez emmenés ont peut-être détérioré quelque chose dans l'appartement? Le propriétaire vous en tient rigueur aussi?
Oui.
Mais vous ne payez pas les dégâts?
Oui.
Sauf que ça empiète un peu sur votre relation pour les futurs.
Oui, ça empiète ma relation avec le propriétaire.
D'accord.
Il y a aussi souvent, parfois, des problèmes. Certains propriétaires vous miroitent, ils vous disent qu'il y a telle chose dans l'appartement, il y a telle chose. Vous prenez le client, vous envoyez. Mais quand le client arrive, il constate que ce que vous lui avez dit, c'est pas ce qu'il trouve dans l'appartement. Parfois, il y a des outils qui sont cassés,
mm-hmm.
etc. Autant de choses, ça empiète les relations.
D'accord.
Moi, le message que je vais donner au propriétaire, c'est de toujours s'assurer que tout est OK dans l'appartement.
Mm-hmm.
Parfois, il y a des clients qui vous disent, il y a le groupe électrogène. Venez avec le client. Lorsque le client arrive, il vous dit que bon, le groupe électrogène, là, c'est gâté. Là, quand le client arrive, on est en train de chercher à ranger. Du coup, vous ne comprenez pas quoi. Et le client est aussi mal à l'aise.
Oui.
Il ne veut pas payer le reste de l'argent. Il est là, il est stressé.
D'accord. Justement, est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez jusqu'à, on va dire quoi, l'ultra personnalisation du service?
Oui, c'est l'ultra personnalisation du service. Et j'insiste dessus parce que quand vous allez sur les sites comme RNB, vous allez dans les sessions avis. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes déposent toujours les avis. Et ils se plaignent énormément, ils se plaignent parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qui est posté en ligne et ce qui est issu dans la vraie vie.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que je mise vraiment sur l'ultra-personnalisation du service dans la recherche du logement meublé.
Donc, vous prenez le temps de faire quoi? D'aller vérifier sur place, de faire tous les contrôles, d'être là quand le client arrive, de tout checker avec lui, s'il le veut. C'est une option.
S'il le veut, bien sûr.
D'accord. Donc, et cette option-là a un supplément forcément, ou ça rentre toujours dans les 15 000 de frais de recherche?
Ça rentre dans les 15 000.
D'accord. Ça vous aide également à construire cette relation de confiance-là avec vos clients. Maintenant, même si vous êtes spécialisé dans les logements meublés, ça arrive que vous sortiez de ce cadre-là?
Bien sûr, ça arrive que je sors de ce cadre parce que vous savez... L'immobilier meublé, il y a des zones, les hauts et les bas. Il y a les saisons où on gagne, il y a les moments où on ne gagne vraiment rien du tout. Du coup, quand je suis en période basse,
mm-hmm.
et il n'y a pas de clients,
oui.
du coup, je regarde s'il y a des fonds de logement meublé à vendre, est-ce qu'il y a des maisons à vendre, est-ce qu'il y a des immeubles à vendre. Parfois, j'adopte une démarche vers ces propriétaires pour voir si je peux leur apporter mon service.
Mm-hmm.
C'est comme ça que parfois, je comble certaines périodes que je creuse, pardon. C'est ça.
D'accord. Est-ce que les propriétaires sont... Parce qu'il y en a qui veulent se débrouiller par eux-mêmes et vendre leurs biens. C'est quoi là? Est-ce qu'ils acceptent facilement de vous confier soit les fonds, soit les maisons à vendre et tout ça?
Oui, ce n'est pas facile. Donc, ils ont confiance surtout à mon branding parce que je suis professionnelle par rapport aux autres agents immobiliers qui, eux, ne s'affichent pas sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Comme dernièrement, un client étant en Allemagne, il m'a confié la vente de sa villa à Kribi.
Mm-hmm.
On a signé un contrat sous signe et j'ai travaillé pendant 3 mois sur la base de la confiance.
Mm-hmm. Et à ce moment-là, quand c'est la vente de... On reste toujours quoi sur les 10% de commission ou ça peut dépasser?
C'est 10% de commission de la vente de la maison.
D'accord. Donc, peu importe le bien, à chaque fois... le chiffre que vous ramenez, on vous reverse 10%. Ça
oui.
ne bouge pas.
Mais il faut préciser que parfois le client n'achète pas au prix fixé par le propriétaire.
Mm-hmm.
Du coup, ça peut être moins.
Oui.
Ce qui fait que ça peut être 5% que je reçois en termes de commission.
Mm-hmm.
Donc, ce n'est pas toujours 10%.
Donc là, ça, quand il achète moins, c'est quoi? On refait le contrat avec le propriétaire, on se met d'accord, on ajuste. Parce
oui,
qu'il y en a qui peuvent vous dire que
c'est surtout ce genre de contrat-là, je ne m'amuse surtout pas. Hein.
C'est des contrats qui rapportent beaucoup aussi quand même.
Oui.
sur la vente d'une maison de 40 millions comme ça, pour ceux qui aiment faire les calculs. Mais après, il faut faire le travail qu'il faut. Maintenant, justement, quand on vend des biens nus, je vous vois beaucoup parler de home staging. C'est quelque chose dont, dans notre environnement, pour ceux qui regardent les émissions immobilières sous d'autres cieux, ils savent peut-être de quoi on parle, mais vous militez beaucoup quand on vend des biens nus, vous parlez beaucoup de home staging. Je vous vois sur les réseaux parler du home staging. Non, le fait de ne pas vendre un bien complètement nu, mais de, comment on va dire ça, de meubler à moitié si on veut. Je ne sais pas si c'est l'expression que j'utilise et que vous ne m'entendez pas très bien.
Meubler à moitié. Oh, vous parlez de... les pièces vides qu'on meuble
oui,
après.
Oui.
Ah, oui. Ça, je fais ça avec l'intelligence artificielle. Mm-hmm. J'explique. Vous savez, il y a des propriétaires qui, lorsqu'ils mettent un studio, un appartement à vendre sur le marché,
oui,
il y a parfois les saletés à l'intérieur.
Mm-hmm.
Il y a parfois autant de choses à l'intérieur. Ils prennent, ils filment, ils t'envoient.
Oui.
Et toi, tu prends les photos qui sont sales, tu publies sur les réseaux sociaux.
Mm-hmm.
Oh, beaucoup d'agents immobiliers ne savent pas qu'ils ont besoin des outils comme l'intelligence artificielle pour désencombrer la pièce.
Avec les photos qu'on vous a envoyées, voilà, vous faites ça.
Il désencombre la pièce pour que le client ait une idée de l'espace,
mm-hmm,
qu'il va louer.
Oui.
L'intelligence artificielle peut permettre également de meubler la pièce pour que le client se projette dans sa future location grâce, mm-hmm, à l'intelligence artificielle.
Oui, ce que d'autres feraient avec la 3D.
Oui, oui.
D'accord. Et ça permet de mieux vendre. Les gens sont plus sensibles. Est-ce que quand ils voient le bien à l'état réel, en dehors de ce que vous avez présenté, qui était très, très bien fait, ils ne sont pas déçus un peu?
Bon, je leur fais toujours savoir que c'est une simulation, bien sûr.
Mm-hmm.
Qui leur donne un avant-goût.
Oui.
C'est un appât pour les attirer.
Mm-hmm.
Mais moi, je dois toujours me rassurer que le propriétaire a toujours fait le ménage impeccable dans l'appartement. C'est très important. Je n'aime pas quand un client est déçu.
Mm-hmm. D'accord. Au regard de votre expérience de 3 années déjà, quels sont les points aujourd'hui de ce que vous avez remarqué avec toute l'expérience que vous avez déjà acquise dans ce secteur-là? Quels sont les points sur lesquels dans le secteur immobilier au Cameroun, on doit vraiment travailler pour être sûr que les biens soient vendeurs?
Les points sur lesquels on doit vraiment travailler, c'est rendre la profession immobilière plus formelle.
Mmh.
Mettre l'accent sur la formation. Parce que visiblement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'amateurs qui se lancent sans connaître vraiment la tête et la queue.
Mm-hmm.
Et du coup, il y a des agents immobiliers qui issus des prisons. Ils vont en prison parce qu'ils n'ont pas maîtrisé certains aspects dans la gestion des dossiers.
Mm-hmm.
Il faut à tout prix une formation pour ça.
Mm-hmm.
Il faut également un agrément pour les formations.
Oui.
Voilà. Qui permet à l'agent immobilier de crédibiliser son image quand il se lance dans le business.
Mm-hmm.
C'est ça.
D'accord, pour vous qui êtes arrivé en apprenant un tout petit peu sur le tas, j'ai envie de dire que des fois, les autodidactes s'en sortent mieux, mais vous avez quand même appris. Qu'est-ce qui, selon vous aujourd'hui, fait la différence et qui fait que vous avez des clients à l'international qui vous font facilement confiance, malgré que pour l'instant, vous n'avez pas un agrément, une entreprise formelle? Qu'est-ce que vous avez fait qui les a autant marqués et qui fasse qu'aujourd'hui ils soient nombreux à vous faire confiance?
Il y a l'accueil, la manière de les accueillir, la manière de leur expliquer clairement les choses.
Mm-hmm.
Et il y a des dossiers sur lesquels je travaille vraiment, je n'ai pas assez d'expertise.
Mm-hmm.
Je travaille en faisant des rooms en ligne, que ce soit sur WhatsApp ou Zoom,
mm-hmm,
avec d'autres experts pour leur dire, voilà, vous avez besoin d'acheter tel bien immobilier, mais je travaille avec telle agence immobilière qui est légalisée.
Mm-hmm.
Donc, c'est quelque chose de formel,
vous, oui,
pouvez avoir confiance.
Mm-hmm.
Vu que moi, je n'ai pas d'agrément, je ne suis pas légalisée, mais je collabore avec des partenaires. Du coup, le client se dit, bon, pourquoi pas, c'est bon, on peut foncer.
Mm-hmm.
Mais quand il n'y a pas de collaboration avec les agents, c'est souvent parfois difficile de convaincre le client.
D'accord. Heureusement que vous avez réussi à établir ce pont-là, que vous avez réussi à dépasser un tout petit peu vos difficultés personnelles pour aller à la rencontre de ces personnes qui ont l'expertise, qui ont l'existence légale qui vous permet également vous de mener votre activité en attendant de pouvoir être vous aussi une entreprise. On va vous remercier, Mireille Co. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous étiez un peu dubitative sur comment ça allait se passer. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On espère voir la dame de l'immobilier continuer à grandir et que très prochainement, on vienne aussi dans vos locaux pour voir la dame de l'immobilier et toutes les annonces immobilières qu'elle propose. On attend aussi de voir cette offre de formation, que ce soit sur les MOOC en ligne, se concrétiser. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement.
Moi aussi, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée de passer sur votre chaîne. Ça m'a beaucoup marqué parce que depuis j'ai commencé dans l'immobilier, je n'ai pas encore eu cette opportunité. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse et votre entreprise.
Amen. Merci également à tous ceux qui ont été des nôtres pour cette partie dédiée à la passagère du jour. On va marquer la pause et puis quand on revient, on va au marché.
Le passager du jour dans Classico. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
Merci de nous retrouver dans ce studio. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes à l'écoute de Classico, le magazine quotidien sur Volume 3 dans lequel on parle d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. On va encore parler d'économie, mais cette fois c'est une économie du marché. Et aujourd'hui au marché, Viali Gaya nous propose d'acheter du maïs égrené.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Fatigué d'acheter les sachets de bouillie au marché, j'ai décidé de fabriquer par moi-même, comme nos mamans le faisaient ou comme certains le font encore. Je me suis donc rendu au petit marché du quartier pour acheter du maïs égrené. Mais en discutant avec les vendeuses, j'ai constaté que les prix varient et que la qualité n'est pas toujours la même. Certaines graines sont bien secs et propres, tandis que d'autres ont une odeur et des taches. Intrigué par cette différence, je décide de mener l'enquête. Je me rends donc au marché Double Balle de Bipanda. Ici, les trottoirs sont occupés par divers types de vendeurs, mais ce qui m'intéresse, c'est le maïs égrené. Je longe les couloirs boueux et animés du marché en cherchant cette céréale. Après quelques minutes de recherche, je croise Vanessa qui, elle, s'est lancée dans cette activité depuis quelques mois et vend en détail. Elle me confie d'où vient son maïs, comment elle le commercialise et sa méthode de conservation.
D'où vient ton maïs?
À Bouda.
Et comment tu conserves ton maïs?
Je le mets dans les sacs, je le garde à la maison.
Le sac de maïs coûte combien de temps?
Pour le moment, ça coûte 44 000.
Est-ce que c'est plus cher que l'autre période?
Pas tellement.
Et les autres périodes, ça coûte combien?
Ça coûte 50 000 le sac. Oui, maintenant c'est moins cher.
Et la boîte coûte combien?
350.
Dans quel type de maïs?
Oui, ça c'est le blanc, il y a le blanc et le rouge.
Et comment on fait pour conserver?
Mais ma part, je vends ma part seulement, non, ça ne dure pas. Ce que je mange à la maison, je mets dans les terres de tangi, là, 10 litres, là. Soit tu verses même dans le fût.
Plus loin, je fais la rencontre de Ghislaine, qui elle aussi commercialise cette graine depuis plusieurs années.
D'où vient ton maïs?
À Bouddha, oui.
Le bon maïs vient de Bouddha?
Oui, le bon maïs parce que je suis Bouddha, c'est mon maïs. J'ai mon maïs.
Ça sort de quelle région?
Il y a le nord, au fait, c'est de Tibet. Il y a le Bouddha, il y a le nord, il y a plusieurs.
Quel type de maïs suivant?
Il y a le rouge, il y a le blanc.
Pourquoi le maïs rouge est plus cher que le maïs blanc?
C'est qu'on nous dit. On dit que le maïs jaune est nourrissant plus que le blanc. C'est ce que moi je comprends. Je connais tout ça.
Et à cette période, est-ce que le maïs est plus cher?
Non, c'est moins cher. C'est moins cher parce que c'est le nouveau. C'est le nouveau maïs.
Et qui a attendu cette
saison? À partir de novembre, décembre. Le saut maintenant, c'est 5 000. 5 000 avec la machine.
C'est
le jaune, c'est 7 000. Quand c'est cher, c'est 7 000. Quand c'est moins cher, c'est 6 000.
Ancien, c'est pour depuis, mais le nouveau, c'est pour maintenant. C'est pas. Et au fait, on met dans la mamie, ça ne gonfle pas comme l'ancien. Oui, c'est le nouveau.
Comment on conserve le maïs?
Oh, comme j'achète comme ça là. Non, j'achète le nombre de sacs que moi. Je sais que peut-être dans 2 semaines, n'importe pas sauvagement beaucoup. Par exemple, ça, peut-être tu portes, ça fait un mois, ça va moisir. Je porte la quantité que je sais que peut-être 2 semaines, 3 semaines, c'est à fini. Non, la majorité connaît que c'est le nouveau. Pour conserver ça, c'est pas facile parce que c'est pas bien sec. Pour conserver, il faut que tu arrives à la maison, tu sèches encore avant de garder. Bien sec avant de garder.
Le maïs égrené ne sert pas seulement au bouilli ou au plat traditionnel. Il est aussi acheté en grande quantité par des éleveurs pour l'alimentation animale. Mais pour les ménages, la préoccupation principale reste le prix instable.
On fait pour d'autres fonds aussi également. Maïs, bouilli et autres. Donc le couscous de maïs.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre
le maïs rouge et le maïs blanc, juste que la couleur, déjà d'abord, je crois que le maïs qui est rouge a une très belle couleur, une très belle texture par rapport au maïs blanc. À cause de sa texture, à cause du fait que c'est aussi, en fait, même au regard, c'est beau. On conserve le maïs dans les bidons et on met du lait à l'intérieur. L'ail, lui, ça fait en sorte que les chansons ne puissent pas attaquer le maïs.
Le maïs n'est pas seulement un aliment du quotidien, c'est aussi une culture stratégique pour le Cameroun. Selon les données du MINADER, en 2022, la production nationale tournait autour de 2,3 à 2,5 millions de tonnes par an. Autrement dit, le maïs présente près de 12% de la production vivrière du pays. Il est cultivé dans presque toutes les régions, mais principalement dans l'ouest, le nord-ouest et le centre. Bouilli, couscous, kantchap, le maïs se cuisine de plusieurs façons. En ce qui me concerne, je sais maintenant à quoi m'en tenir niveau budget.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
À présent, dans l'escale, on va vous emmener au plus près des grillades parce que nous sommes allés à la rencontre de Jaurès, vendeur de poulet braisé.
Escale dans Classe Éco.
Ah oui, en fait, moi, c'est Jaurès Asata. Je réside à Douala. Précisément, je fais dans les grillades, plus précisément le poulet. Bon, en fait, déjà, j'ai eu une enfance pas vraiment facile. Déjà, j'ai commencé à faire d'abord l'aventure. Et j'étais à Dubaï, j'ai fait 4 ans. J'ai eu un contrat de travail, malheureusement. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors, je suis rentré dans mon pays natal, qui est le Cameroun, bien sûr. Alors, je voulais faire quelque chose pour pouvoir m'en sortir, étant donné que ce n'est pas déjà facile, au 237, tout le monde le sait. Alors j'ai eu un ami qui m'a orienté, il m'a dit, bon voilà, voilà un business que tu peux faire à un coût moins élevé. Et bon voilà, je me suis lancé à 40 000 francs, j'ai commencé à acheter le plantain, le poulet, et bon voilà, je suis déjà à 2 ans. Généralement, bon, vous savez, chez les Camerounais, il faut toujours oser, il faut toujours essayer avant d'être dessus. J'ai eu un ami aussi là-bas, il m'a fait comprendre que la situation là-bas est un peu probable et que bon voilà, je pouvais aussi essayer, mais malheureusement pour moi c'était un calvaire, étant donné que pour lui me faire venir, ce n'était pas juste m'aider, mais c'était pour gagner un gain, comme faire un visa et puis avoir des commissions en retour. Oui, exactement, j'ai fait dans le génie civil, déjà dans mon pays natal j'ai fait le génie civil, et voilà, pour moi c'était aller approfondir mes connaissances et apporter un plus pour développer mon pays. J'ai eu une entreprise indienne qui m'a recruté là-bas et il me payait 1 200 dirhams. Une monnaie évaluée entre 220 000 et 240 000 par mois. Vous voyez, ce n'était pas facile parce que le dirham est évalué à 200 francs, à la valeur supérieure. Bon, ce n'était pas facile de joindre les bouts avec une somme d'argent de 220 000 francs le mois dans un pays comme Dubaï où tout coûte vraiment cher. Bon, la famille, déjà, la famille m'a encouragé pour cette aventure déjà. Parce qu'au Cameroun, avec mon travail, le génie civil, vous connaissez le chantier, on paye le samedi. Et malheureusement, ce n'est pas souvent probable de payer le samedi parce qu'il y a souvent les tâches qui ne sont pas remplies. Il y a souvent le chef chantier qui n'est pas là et tout et qu'on sort. C'était vraiment difficile. On pouvait se retrouver à un mois comme ça, on n'a pas de salaire. Ce qui fait que la famille m'a soutenu à voir les choses un peu plus loin que le bout de mon nez. Ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, bon voilà, c'est une expérience, même si tu ne dois pas avoir de l'argent, mais tu pourrais facilement te former et être plus professionnel et revenir pour faire quelque chose de grand. Voilà un peu dans la mesure où c'était une aventure aussi avantageuse pour mes parents. Bon, probablement, j'ai continué dans le génie civil. J'ai continué. Quand je suis revenu du pays, j'ai travaillé à Satom. Ils m'ont pris pour un stage. Déjà, ils me payaient 75 000 francs. Oui, je m'occupais de la faisabilité des travaux, c'est-à-dire les devis. Je faisais un peu les devis estimatifs et quantitatifs. Et j'assistais aussi à certains gros œuvres comme les dalles, puisque j'ai eu beaucoup de connaissances déjà là-bas. Et malheureusement, avec 75 000 francs, avec un homme comme moi marié et avec une famille, ce n'était pas vraiment facile pour moi. Pour moi, accepter ce contrat, c'était qu'avec le poids du temps, peut-être on allait rémunérer un peu plus grand. Bon, voilà, ce n'était pas le cas. Raison pour laquelle j'ai cherché une autre activité où je pouvais travailler et avoir le cash plus rapidement et aider ma famille. En fait, vous savez, chez le Camerounais apprend très vite. Lors de mon parcours à Dubaï déjà, étant donné que c'est un pays où on mène beaucoup, il y a plusieurs activités, il y a une diversité de cultures et tout et consorts. J'ai d'abord travaillé pour un part-time dans une entreprise, dans un restaurant chinois où je lavais les assiettes, je nettoyais un peu les lieux, les locaux, tout et consorts. Bon, je guettais aussi, je voyais comment on faisait la cuisson et tout et consorts, ça me plaisait. Mais malheureusement, je n'avais pas les compétences pour exercer ça là-bas. Et bon, voilà, quand je suis rentré là, j'ai dit, bon, étant donné que j'ai vu comment on faisait, j'ai goûté, ça m'a plu. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire quelque chose aussi? Vendre du poulet et approfondir un peu des connaissances aussi, étant donné que j'ai vu comment ça se passait et il y avait la clientèle. J'ai voulu aussi me lancer. Mais déjà, quand je suis rentré dans mon pays, je n'avais pas assez de moyens pour faire un grand restaurant. Raison pour laquelle je me suis heurté et j'ai décidé de faire un peu dans la rue comme ça. Déjà des deux ans déjà, oui. Oui, on peut dire déjà, oui, j'ai une expérience plus précisément dans le poulet rôti, le poulet pané, le poulet, en fait, transformer le poulet sous toutes ses formes déjà. Oui, je le fais parfaitement. Oui, déjà, je rencontre beaucoup de difficultés lors de ma vente. C'est que généralement, nous mettons de la marchandise à la disposition des clients, mais nous ne connaissons pas la quantité propice qu'on peut vendre, qu'on peut apporter jusqu'à retrouver l'investissement. Généralement, de lundi à vendredi, je vends 11 à 12 poulets. Et les samedis et dimanches, parfois, c'est un peu plus. Mais il y a des jours un peu très compliqués comme le changement climatique. Parfois, il y a de la pluie, il y a beaucoup de pluie. Parfois, c'est les vents. Et nous nous heurtons dans la vente, ce qui fait que avec 10 poulets que j'apporte, peut-être comme un mercredi, je peux me retrouver à 5 poulets. Je peux vendre 5 poulets et je rentre avec 5 poulets. Et je vends généralement le cas à 1000 francs. Ce qui fait que 5 poulets là, ça me revient entre 20 000 francs. Oui, 20 000 francs. Nous pouvons toutefois conclure que je suis dans les pertes. Parce que si je vends 5 poulets, je rentre avec 5 poulets, ça veut dire que la vente n'a pas été vraiment bonne et ce n'est pas favorable pour moi. Bon, généralement, d'abord, j'ai eu un ami qui m'a conseillé de faire la publication déjà de mes ventes à Facebook et tout et consorts. Et j'ai aussi cet ami-là, particulièrement, lui-même, il fait aussi dans les grillades. Ce qui fait que quand parfois ça rentre comme ça, peut-être sain, je peux le proposer, mon frère. Regarde, entre-temps, est-ce qu'il y a les clients chez toi? Est-ce que tu en demande du poulet, je peux peut-être vous fournir 2 poulets, 3 poulets pour un peu baisser la totalité des poulets qui vont rentrer. Ce qui fait qu'il a sa part de pourcentage. Au lieu de 4000 francs le poulet, je peux me retrouver à 3500. Il gagne ses 500 francs par poulet. Oui, généralement, nous avons beaucoup de difficultés. Comme vous pouvez constater, nous sommes dans la rue. et gérer les comportements de chaque personne, ce n'est pas facile. Et non plus, nous sommes dans la rue, nous sommes aussi à côté des bars. Nous avons parfois des difficultés avec des personnes qui ont bu, qui ont commandé peut-être 4000 francs et qui ont tellement bu et qui veulent rabaisser la facture parfois à 1000 francs, à 1500, vous voyez. Et ce n'est pas du tout facile de se tirailler avec un client et qui est déjà notre supérieur par respect. Parfois, on est dans les pertes, parfois on est obligé de le laisser partir avec l'argent. Parfois, les disputes amènent à la bagarre et parfois nous perdons vraiment la marchandise et parfois la marchandise se perd. Moi, généralement, comme j'ai été à l'étranger, personnellement, je connais également mes droits et mes devoirs. J'ai souvent l'habitude de faire appel à la police et nous tous, nous pouvons connaître comment la police administrative réagit très lentement. Parfois, on peut faire appel à la police, malheureusement, le client se déplace. Parfois, on peut faire aussi à la police arrive et nous demande de payer d'abord les frais de déplacement et tout et consort. Parfois, on appelle la police pour 2000 francs. Et la police vient pour les frais de déplacement, c'est 5000 francs. Vous voyez les circonstances un peu difficiles que nous nous retrouvons parfois. Oui, bon, j'ai déjà une personne qui depuis Penja, qui m'envoie généralement les plantains depuis l'agence générale où je reçois les plantains par sac. Parfois, j'achète le sac à 27 000 francs, mais maintenant, le plantain est tellement cher. Nous tous, nous connaissons la promotion de bananes plantains au Cameroun. Les choses deviennent de plus en plus chères, les frais de déplacement, tout qu'on soit. Actuellement, j'achète le sac à 35 et 40 000. Généralement, comme à l'heure actuelle, quand je suis en train de vous parler, le plantain est tellement cher. Je vendais généralement tous mes plantains confondus, gros comme petits, à 100 francs. Maintenant, je suis obligé d'aller dans la rencontre, d'augmenter des prix à 150, 200 francs. Et parfois, quand j'ai peut-être des gros plantains dans mon sac, je suis obligé de les diviser. Je les divise pour les vendre à 100 francs ou 150, afin que tout client soit satisfait et manger du poulet avec du plantain au moins. Oui, j'ai beaucoup de clients qui disent qu'ils ne peuvent pas manger le poulet sans le plantain, étant donné que le plantain est cher. C'est au-dessus de leurs moyens. J'ai parfois l'habitude, je les offre parfois un demi-plantain et je me rattrape chez certains que je vends à 150. Ouais, en réalité, j'ai des collègues dans le domaine, mais ma relation n'est pas très appréciée. Hein. Étant donné que nous faisons du poulet, si on a plusieurs personnes qui font aussi dans le poulet, c'est une concurrence. Oui, c'est une concurrence déjà, ce n'est pas très apprécié.
Escale dans Classeco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classeco.
Maintenant, on va parler de l'innovation et aujourd'hui, je vous propose ClickUp. Clinic App Connect, qui est une plateforme intégrée de supervision et d'optimisation de l'ensemble des processus au sein de votre centre hospitalier. Donc, avis à tous ceux qui ont un centre hospitalier, un hôpital, c'est une innovation qui peut peut-être vous intéresser. Grâce à cela, vous avez une analyse des indicateurs de performance, vous gérez mieux vos patients avec un carnet numérique et également la gestion du planning des médecins, la gestion des rendez-vous, de la caisse, également la prescription de toutes les ordonnances, plein de choses à faire en ligne. Innovation sera la dernière la dernière rubrique de ce programme aujourd'hui parce que Afrique Économie n'est pas disponible pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe actuellement en France. Et bien cela a un impact sur notre collaborateur RFI. Merci encore d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour de nouvelles destinations.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouve tes émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.